Évangile selon Jean, au chapitre 9. Ça fait suite à d'autres méditations qui ont été données sur des miracles, signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Évangile selon Jean, chapitre 9, je vais lire tout le chapitre. En passant, Jésus aperçut en chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question « Rabbi, dis-nous pourquoi cet homme est né aveugle ? » Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? Jésus répondit « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. » C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu peut faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ça, Jésus cracha par terre. Avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé. » Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier disaient « Mais cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours là, assis en train de mendier ?» Les uns disaient « Oui, c'est lui. » D'autres disaient « Ce n'est pas lui, mais lui ressemble quand même. » Et lui disait « C'est moi. » Alors on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait un peu de boue, il m'en a frotté les yeux, puis il a dit « Va à Siloé, lave-toi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai vu clair. » Ils lui demandèrent « Mais où est-il ? » Elle a dit « Je ne sais pas. » On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Et les pharisiens lui demandèrent à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet homme ne peut pas venir de Dieu, parce qu'il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Mais comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes ?» Ils étaient divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est probablement un prophète. » Mais ils refusèrent de le croire avant d'avoir interrogé ses parents. Ils firent venir ses parents et ils leur demandèrent « Cet homme, est-il bien votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il maintenant qu'il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons, nous sommes certains que c'est bien notre fils et nous savons aussi qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant ? Nous ne le savons pas. » Qui lui a rendu la vie, la vue ? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour répondre. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, ils avaient décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. » S'il est un pécheur ou non, ça je ne le sais pas, répondit-il. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Alors ils demandèrent de nouveau, mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment s'est-il pris pour te redonner la vue ? Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Vous ne m'avez pas entendu ? Pourquoi tenez-vous tant à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard, vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples ? Alors ils se mirent à l'injurier et lui dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. Il répondit, voilà bien qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient. Il m'a ouvert les yeux. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. A-t-on jamais entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance ? Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, lui répondirent-ils, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé et il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui demandèrent, serions-nous par hasard, nous aussi, aveugles ? Jésus leur répondit, si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre faute reste entière. Quelle histoire et quel récit. Après cela, que dire ? J'ai l'impression de gâcher le plaisir. Je me risque à quelques réflexions qui peuvent prolonger quelques-unes des impressions que vous avez ressenties à l'écoute de ce récit. D'abord, l'humour. Vous avez perçu que cet humour affleure constamment dans le récit. Et ça nous invite à réfléchir à la fonction de l'humour. Quelle est la nature de l'humour dans ce récit et à quoi il sert ? Alors, il sert d'abord à rendre le récit agréable. Lorsque les passants s'interrogent à propos de l'aveugle qui a été guéri, « C'est bien lui, disaient les uns. Ça n'est pas lui, mais il lui ressemble, disaient les autres. » Et puis quand on nous raconte, « Et lui, disait, c'est moi. C'est évident, c'est la façon dont elle est amenée à quelque chose de comique. Et puis lorsque les parents, courageux mais pas téméraires, répondent aux autorités religieuses qui enquêtent sur la guérison de leur fils, oui, c'est bien notre fils, oui, il est né aveugle, mais alors, ce qui lui est arrivé, comment il se fait qu'il voit maintenant, ça, nous n'en savons rien, ça ne nous regarde pas, il est assez grand pour s'expliquer. Interrogez-le. Cet humour de simple agrément, il n'est pas à dédaigner, c'est un humour qui éclaire d'un sourire la grisaille de la vie, et on en trouve ça et là des traits dans la Bible. Mais le risque de cet humour-là, cet humour d'agrément, lorsqu'on lui accorde trop de crédit, lorsqu'on lui fait trop de place dans notre vie, c'est qu'on ne prend plus vraiment les choses au sérieux. On s'amuse, on se délasse, on plaisante. Et ça semble être le seul but des conversations et peut-être même de la vie. On voit bien que l'humour dans ce récit de guérison poursuit un autre but. Il est au service d'un message et il aide à mieux comprendre ce message. Ça devient évident lorsque l'aveugle guéri répond aux autorités qui l'interrogent. Nous avons d'un côté un homme qui est sans instruction, qui a passé le plus clair de son temps à mendier, et de l'autre, on a des intellectuels, des gens respectés, des gens instruits, des références, des gens qui connaissaient la loi, les gens qui l'enseignaient aux autres. Et puis on les voit tellement empêtrés, embêtés par la guérison qui vient de se produire. Il faut d'abord qu'ils s'assurent que la guérison a bien eu lieu, que ce n'est pas une supercherie. Alors bon, c'est une sage précaution, bien sûr, mais on voit clairement qu'ils aimeraient bien que cette guérison n'ait pas eu lieu. Ça les dérange. Le personnage de Jésus les dérange. Il guérit le jour du sabbat, ça fait débat. Il ne vient pas de chez eux. Et puis, de toute façon, ils ont déjà pris des dispositions pour le tenir à l'écart. Celui qui se déclarera pour lui sera exclu. Mais l'aveugle guéri, lui, de son côté, avec ses réponses naïves, son simple bon sens, il fait ressortir le malaise des pharisiens et leur égarement. Quand il l'incite à reconnaître que l'homme qui a été guéri est un pécheur, « Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur », lui il répond, « Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et plus l'entretien se poursuit, et plus l'aveugle prend de l'ascendant sur ceux qui l'interrogent. Et puis il commence par ironiser, lorsqu'il demande de répéter la scène de la guérison, qu'on a déjà entendue, nous, plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, elle est répétée. Et il leur dit, « Mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Est-ce que vous voulez l'entendre de nouveau ? Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau ? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples ?» Alors là, ils se fâchent tout rouge, les pharisiens, mais l'aveugle-né n'est pas décontenancé, il leur tient tête. Et quand ils lui disent « Celui-là, nous ne savons d'où il est », il répond « C'est quand même étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, parce qu'il m'a ouvert les yeux ». Et puis alors, il s'engage dans une démonstration d'une logique imparable. Nous savons que Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu, s'il fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais on a entendu dire que quelqu'un est guéri un aveugle-né. S'il n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On voit comme les rôles sont complètement inversés. C'est l'ignorant qui fait la leçon au prétendu instruit. Et ça correspond exactement à la parole que Jésus va prononcer en conclusion de l'histoire. « Je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. » et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà comment fonctionne l'humour dans ce récit. Je vous propose une deuxième réflexion que j'intitulerai ainsi « Chercher la cause ou découvrir le but ». Chercher la cause ou découvrir le but. En présence de l'aveugle de naissance, les disciples de Jésus se posent la question de l'origine de cette infirmité. Et c'est un cas, en effet, très troublant. Si on croit que rien n'arrive par hasard, que Dieu conduit la destinée de chaque être humain, que même la mort d'un simple moineau n'échappe pas au contrôle de Dieu, comment comprendre qu'un enfant naisse aveugle ? On doit penser que c'est une punition que Dieu inflige à ses parents. Ou alors, le raisonnement devient beaucoup plus entortillé, que dès sa naissance, Dieu, par anticipation, l'aurait puni pour une faute qu'il allait commettre plus tard. Ça devient très difficile à croire. Et les disciples ne comprennent pas, ils sont perturbés par cette question. Et ils espèrent que leur maître va résoudre le problème. Mais Jésus ne propose pas d'explication à cette douloureuse énigme. Il exclut les deux explications qui ont été proposées. Ce n'est ni sa faute, ni celle de ses parents. Et au lieu de proposer une explication, il annonce une solution. Ce n'est pas parce que, c'est pour que. Pour que l'on voit en lui ce que Dieu est capable de faire. Cette réponse de Jésus, elle peut être pour nous d'un grand secours lorsque nous butons devant de telles énigmes douloureuses. Non pas qu'il faille par principe renoncer à chercher des causes à tel ou tel malheur qui nous arrive, Dieu ne manque pas de nous instruire, et même de nous corriger, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous considère comme ses enfants. Et c'est une bonne chose de réfléchir sur les causes. Mais il reste des énigmes douloureuses pour lesquelles nous ne devons pas nous tourmenter lorsque nous en ignorons la cause. Jésus, dans ce cas, nous invite à détourner nos regards du passé, quelle est la cause, pour les tourner vers l'avenir, vers ce que Dieu peut faire dans la situation qui nous préoccupe. Alors vous allez me dire, si nous ne connaissons pas le passé, eh bien nous ne comprenons pas le passé, eh bien nous connaissons encore moins l'avenir, donc nous ne sommes pas bien avancés. Mais ce regard que Jésus nous invite à jeter, ce n'est pas le regard de celui qui prétend connaître le futur, mais c'est le regard de la confiance. C'est le regard de l'abandon à celui qui connaît l'avenir, lui, et qui le tient vraiment entre ses mains. Et je pense que vous aurez remarqué que dans notre vie, il nous arrive encore assez souvent que l'avenir proche ou plus lointain nous donne l'occasion de voir ce que Dieu a fait dans une situation qui nous paraissait incompréhensible et sans issue. On ne peut pas m'empêcher de penser à Éric Ourcade. Ce frère que Dieu nous a donné pour quelques mois, qui a confessé sa foi, qui a été baptisé ici, et que Dieu a si vite repris à lui. Comme beaucoup d'autres, peut-être comme nous tous, je n'ai pas compris pourquoi. Mais lorsque j'ai assisté ici à la cérémonie de souvenir après son décès, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Quand j'ai entendu les témoignages de ses collègues, collègues de travail, quand j'ai entendu ce que disaient ses parents, et surtout quand j'ai compris pourquoi il était venu à la foi, ce qu'il cherchait, c'est une religion qui donne une espérance au-delà de la mort. Cette espérance, il l'a trouvée. Et cette espérance, maintenant, il en goûte la pleine réalisation. C'est dommage que nous ayons été si peu de l'Église à prendre part à cette rencontre, parce que c'est un message très fort que Dieu nous a donné ce jour-là, qu'il a donné à son Église. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? Si c'est dans cette vie seulement que nous plaçons notre espérance, la mort d'Éric, c'est un terrible échec et c'est un drame absolu. Mais c'est exactement ce que nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 15 de sa lettre aux Corinthiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous plaçons notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité. Et nous avons par lui une espérance vivante. Voilà l'action de Dieu, ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère Éric. Une dernière réflexion. Le comportement de Jésus lors de cette guérison, c'est quand même bien étrange. Il crache par terre, fait de la boue avec sa salive. Il l'applique je pense que c'est sur les paupières de l'aveugle, je ne pense pas qu'il ait mis ça sur ses yeux. Enfin, le texte dit les yeux, mais je pense qu'il faut comprendre les paupières. Et il l'envoie se laver tout en bas de la ville, à la fontaine de Siloé. Descend tout en bas. Et puis il ne lui dit rien d'autre. Hein. Il ne parle pas de guérison, rien. Il va te laver. Et quand l'aveugle revient, il est guéri. Et quand l'aveugle revient, Jésus a disparu. Et quand on lui demande, quand on demande à l'aveugle où est Jésus, ben, il dit ben, je ne sais pas. L'essentiel du récit se passe en l'absence de Jésus. C'est le récit, l'essentiel du récit, ce sont les protagonistes, ce sont les gens qui l'ont vu mendier dans le passé, ce sont ses parents, ce sont les pharisiens. Et c'est dans les échanges qu'il a avec les pharisiens que l'on voit la foi de l'aveugle prendre naissance et se développer. Et c'est tout à la fin que Jésus le rencontre et que l'aveugle guérit, déclare sa foi. « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. Cette guérison, elle est atypique. Le plus souvent, dans les guérisons, Jésus parle avec la personne. C'est souvent en prononçant une parole qu'il opère la guérison. Puis il arrive aussi assez souvent de toucher la personne au moment où il la guérit. Mais là, Jésus nous paraît agir un petit peu comme un sorcier. Il manipule des substances, de la salive, de la boue, comme s'il appliquait une sorte de traitement. Et puis, il envoie l'aveugle se laver à une fontaine particulière. Il ne lui dit pas « va te laver », il lui dit « va à Siloé », comme si cette fontaine avait une vertu curative. Et le Jean en rajoute en donnant le sens du mot. Siloé, ça veut dire « envoyer », comme si le nom de la fontaine avait quelque rapport mystérieux avec la guérison. Il y a dans les évangiles un autre récit qui ressemble à celui-ci, ou l'attitude de Jésus ressemble à celle-ci. C'est la guérison d'un sourd-muet qui est racontée dans l'évangile selon Marc. Jésus lui met les doigts dans les oreilles, il lui touche la langue avec sa salive, encore la salive, il lève les yeux au ciel, et puis il dit « Ephphatha », Dans le récit qui est en grec, c'est en araméen, comme si c'était presque une parole magique. Et on lui donne l'explication, ça veut dire « ouvre-toi ». Et face à ces exemples, on se prend à se demander de manière assez impertinente « pourquoi tout ce cirque ?» Alors que Jésus l'a prouvé bien des fois, une seule parole, et même parfois à distance, lui suffisait pour opérer une guérison. Il est certain que Jésus n'avait pas besoin de tels gestes, de telles substances, ou même de telles paroles spéciales pour opérer une guérison. Et le fait que Jésus ait procédé chaque fois de manière si différente, et le plus souvent sans aucune manipulation, montre qu'il n'y avait pas de truc. C'est Jésus seul qui, par son pouvoir, sa seule autorité, opère les guérisons. C'est ainsi qu'il le fait encore aujourd'hui. Ça ne dépend que de lui. Il n'y a pas de truc. On peut penser, semble-t-il, que c'est pour venir en aide à notre foi, qui a toujours besoin d'être soutenue, que Jésus a utilisé ses gestes, qu'il a utilisé cette boue appliqué sur les paupières, qu'il a utilisé ce trajet jusqu'à la fontaine pour aller se laver. Notre foi, elle a toujours besoin de quelques repères matériels pour se manifester. L'eau du baptême, le pain et le vin de la scène. Si nous nous attachons au seul repère matériel, alors nous tombons dans la magie. Mais les repères peuvent être aussi, et sont aussi, une aide précieuse pour notre foi. Ce que l'on constate ici à propos du miracle de la guérison, on peut l'observer aussi avec une plus grande diversité encore dans le miracle de la foi, de la conversion au Christ. Combien d'histoires différentes, combien de parcours surprenants. Nous le constatons à chaque journée de baptême. Des histoires qui sont parfois presque abracadabrantes, même ça ne fait pas vraiment sérieux. Moi, je connais un chrétien très engagé dans la foi. Il l'est depuis plus de 30 ans. Et le récit de sa conversion n'est vraiment pas sérieux. Il a donné sa vie au Seigneur un soir de match de la Coupe d'Europe de foot, un match entre Saint-Étienne et le Celtic de Glasgow. Donc, vous voyez, c'est de l'histoire ancienne, c'est l'époque des Révelli et Rocheteau, etc. C'était un fervent supporter des Verts de Saint-Étienne. Et au plus fort du match, il y a cette pensée qui s'est imposée à lui. Si les Verts gagnent, je me convertis. Les Verts ont gagné. Il a tenu sa promesse et il la tient toujours. Il la tient toujours, certainement pour des raisons plus solides, parce que sa foi a progressé. Ça ne fait vraiment pas sérieux, mais aussi surprenant que cela soit, c'était sérieux. Et en tout cas, Dieu a su construire du sérieux sur cette base qui, avec raison, nous paraît aussi fragile. L'essentiel, c'est que Jésus soit là et que Jésus soit au centre. C'est l'essentiel, c'est qu'il y ait une relation vivante avec Jésus. Dans ce récit, Jésus, nous l'avons noté, apparaît étrangement absent. Mais Jésus est bien là. Et Jésus intervient au moment, à point nommé, pour rencontrer l'aveugle guéri et pour susciter en lui la foi vis-à-vis de lui. Crois-tu ? Au Fils de l'homme ? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. C'est lui que nous avons vu ce matin dans ce récit. Le voir, lui, c'est justement cesser d'être aveugle. Cesser d'être aveugle sur soi-même, aveugle sur le monde, aveugle sur Dieu. Au-delà de toutes les différences de parcours que nous pouvons connaître, il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène à Dieu. Celui qui a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Amen.